Bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, je m'excuse, je vais devoir partir après mon intervention pour avoir le train, donc je m'excuse à l'avance. Donc, je vais aujourd'hui présenter, à la demande des organisateurs de ce séminaire, une réflexion sur le thème de l'esthétique environnementale et du politique. Alors, je voudrais tout d'abord, pour restituer, pour essayer de retracer d'où vient cette réflexion, restituer des moments de mon parcours. Alors tout d'abord, une chose, c'est que j'ai un parcours du point de vue de la formation qui est bidextre, puisque je suis à la fois, j'ai fait les beaux-arts et en même temps, j'ai fait effectivement une thèse en géographie. Alors la thèse en géographie a suivi les beaux-arts. Je travaillais sur les beaux-arts, sur la question des déchets, ramasser des tas de choses dans la ville, et notamment des déchets. Et puis, quand je me suis rendu compte que la question, enfin, des installations que je faisais à l'époque, et puis les modes d'intervention des artistes, ceux avec lesquels je travaillais, nous avions notamment une galerie, n'étaient pas assez engagés à mon goût, j'ai donc cherché à promouvoir une réflexion qui soit plus engagée politiquement, puisque ça me semblait être quelque chose qui, à moi, en tout cas, m'importait. Donc, engagé politiquement, ça voulait dire quoi dans les années 90? C'était la question environnementale qui a retenu mon attention, à la fois parce qu'elle me semblait porter les prémices d'une question qui pouvait concerner tout le monde et qui pouvait poser la question d'une réforme, voire d'une révolution par rapport à un mode de vie contemporain et un mode de développement. Alors, mais je suis rentrée sur cette question de l'environnement, on est dans les années 90, hein, de manière doublement paradoxale. J'y suis rentrée sur les questions de nature en ville, et à l'époque, on ne parlait pas du tout de nature en ville, hein, il faut savoir que c'est venu à partir des années 2000-2010, c'est venu assez tardivement. Et puis, j'ai cherché à traiter de cette question de la nature en ville à partir de l'étude d'un animal, d'une espèce d'insecte, le cafard. Donc, c'est pour ça que je dis c'est doublement paradoxal, parce que traiter de la nature en ville, on n'en parlait pas. Traiter de la nature en ville via le cafard, intuitivement, pour personne, le cafard renvoie à la question de la nature. Donc, j'ai fait énormément d'enquêtes et je l'ai traité de manière interdisciplinaire. Donc, cette interdisciplinarité portait sur la dynamique de population de cet animal dans des cités. J'ai beaucoup travaillé dans les cités. Et je cherchais à voir en quoi les pratiques et représentations des habitants jouaient dans la dynamique de population de cet animal. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, et je ne reviendrai pas dans le détail de ces travaux aujourd'hui, à quel point l'esthétique de l'animal était fondamentale pour expliquer les représentations et pratiques à son égard. Quand je dis esthétique de l'animal, je veux dire à la fois sa forme, la manière dont il a de proliférer, de se déplacer, de fuir la lumière, un certain nombre de caractéristiques naturelles, si j'ose dire, mais aussi les représentations, l'imaginaire qui se déploie à son propos, qui consiste par exemple à croire qu'il y ait un nid sous les cités, à croire aussi que finalement le cafard est juste là pour les pauvres et qu'il est impossible d'en trouver dans les quartiers riches, donc à nier la naturalité même de l'animal au nom des représentations auxquelles il renvoie. Ça, c'est des dimensions tout à fait esthétiques. Une autre dimension esthétique de cet animal, c'est qu'il agit comme il est. C'est une métaphore. Hein. Il faut savoir que, par exemple, même le terme de cafard, qui vient de l'arabe et qui veut dire celui qui fuit la lumière, c'est la même chose en grec, le mot blat, qui est sa traduction scientifique. Donc, traduit à la fois des caractéristiques naturelles. C'est un animal qui est effectivement lucifuge, mais aussi des caractéristiques, si j'ose dire, sociales. Puisque c'est au nom de ses caractéristiques naturelles qu'il a été traité d'un incroyant, qui renvoie à la notion de mécréant, de celui qui ne croit pas, puisqu'il fuit la lumière. Donc vous voyez bien, la question de la métaphore peut avoir une portée tout à fait importante dans l'approche de l'animal. Donc, Bon, ces travaux ont été largement publiés, donc c'était juste pour restituer un peu des éléments de parcours. Et me rendant compte de ça, puisque après j'ai beaucoup travaillé sur le végétal et d'autres éléments de l'environnement plutôt liés au vivant végétal, parce que le végétal renvoie au jardin d'Éden, parce que le végétal a toute une esthétique derrière en termes de représentation qui est très lourde. Hein. On ne voit pas du végétal juste en voyant du végétal, mais on voit derrière des séries d'images qui nous ont structuré depuis l'enfance. Je me suis dit, en fait, cette question environnementale, elle est maltraitée, elle est peu traitée. Par exemple, on ne sait pas, en vérité, finalement, si ce ne sont pas les qualités esthétiques de l'Amazonie qui en font un espace privilégié, en quoi la figure du phoque ou du panda, qui est l'emblème de WWF, joue-t-il un rôle dans le fait que ces animaux seront privilégiés aux dépens d'autres ? Comment sont finalement sélectionnées les espèces qui vont être sauvegardées aux dépens d'autres ? En ce moment où on subit une grande érosion en termes de biodiversité. Et ça, c'est une question, j'ai travaillé avec des gens de Columbia et qui prenaient le marché en disant, de toute façon, on n'a pas besoin de trouver d'autres modes de préservation des espèces que ceux qui sont déjà mis en place par le marché. Rendez-vous compte, pour les réserves, des gens sont prêts à payer pour voir préserver les éléphants. Et c'est ce à quoi je rétorquais toujours. Certes, ils sont prêts à payer pour voir protéger l'éléphant, mais le cafard, qui voudra protéger cet animal? Donc on voit bien qu'il y a des tris, des sélections dans les espèces qui vont nous accompagner ou ne pas nous accompagner, ou plutôt ne pas nous accompagner, qu'il s'agisse d'espèces végétales ou d'espèces animales. Donc cette question-là m'apparaît, c'est totalement sous-estimée. Et peut-être y étais-je sensible du fait de mon parcours entre esthétique et environnement, justement. Et du coup, j'ai décidé, on est dans les années 2000, à m'attacher à saisir en quoi les composantes esthétiques de l'environnement intervenaient dans les choix qui sont faits à son égard, intervenaient dans l'engagement qu'on pouvait avoir à son égard également, intervenait dans la manière dont on pouvait avoir de ressentir des environnements et de les privilégier aux dépens d'autres. Du coup, j'ai cherché, parce qu'en France, la tradition esthétique est une tradition qui n'a pas beaucoup trait à la nature, d'une part, et qui est très liée finalement à soit l'art, c'est une tradition, soit l'art, soit plutôt une tradition monumentale, patrimoniale, éventuellement paysagère. Et du coup, ce sont plutôt vers les travaux des Américains que je me suis tournée, Américains dans un premier temps, puis plus largement Anglais et pays nordiques. Et je me suis attachée à explorer un champ de recherche qui s'appelle l'esthétique environnementale, Environmental Aesthetics, et que j'ai veillé à introduire en France à partir de travaux que j'ai développés dans différentes villes. Donc, cette esthétique environnementale, elle est mal peu connue en France. Il faut savoir qu'elle a beaucoup plus d'écho à l'étranger. Il y a un congrès mondial d'esthétique, nous y sommes invités. Il y a un autre congrès international en Finlande, enfin tout ça c'est cet été. Les Chinois ont développé tout un champ de recherche sur ça. Donc il y a une extension de ces travaux qui touche peu la France pour des raisons de tradition de la question esthétique et de la place que prend une certaine philosophie de l'esthétique en France. Donc cette esthétique environnementale, elle commence un peu à se développer ou à être plus connue au-delà simplement des travaux des anglophones. Alors cette esthétique environnementale, elle prend notamment sa source, mais pas seulement, on va y revenir, dans les travaux de John Dewey, qui est un philosophe pragmatiste américain, qui dans un ouvrage qui a été publié en 1934, « Art as Experience », décrit la raison pour laquelle il pense que l'esthétique ne doit pas seulement concerner les œuvres d'art, qu'elle doit sortir du musée et qu'elle doit s'appliquer à toutes sortes d'expériences que nous avons concernant les formes qui nous environnent. Il dit même à un endroit, bon, c'est un peu de mémoire que je cite, mais vous pouvez retourner au texte, il dit même à un endroit que finalement ça ressemble furieusement à une confiscation politique, que cette absence de la question esthétique hors du champ de l'art, et que finalement on évite comme ça la question de la sensibilité dans l'espace public, on évite se pencher sur la question des émotions ou un certain nombre de sensations que nous pourrions avoir concernant un autre type de forme. Remarquez bien que sur la question environnementale, c'est tout à fait clair que les arguments qu'on doit avancer dans le débat public pour justifier de la protection de telle ou telle espèce sont plutôt des, et ceux qui sont reconnus sont plutôt des arguments d'ordre scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une illégitimité de certains types d'arguments aux dépens d'autres. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, j'ai travaillé sur l'aménagement de l'avenue d'Italie qui a été aménagée par un paysagiste qui s'appelle Michel Corajou et qui a beaucoup travaillé à réformer le vocabulaire qui était traditionnellement utilisé pour les grandes avenues parisiennes, à savoir deux arbres d'égale grandeur, un trottoir avec une certaine hauteur. Il y a tout un vocabulaire pour qualifier l'aménagement des grandes avenues parisiennes. Il a travaillé sur ça. C'était donc un aménagement jouait sur la question esthétique, qui jouait sur l'esthétique de cette avenue. Et pourtant, lors de l'enquête publique, qui a réuni plus de 200 commentaires, 200 personnes qui sont intervenues directement pour commenter l'aménagement de cette avenue, aucun des commentaires ne relevait de la question esthétique. Tous relevaient de la question fonctionnelle, c'est-à-dire comment je vais passer avec ma poussette, mon vélo, ma voiture, etc. Donc il y a une autocensure, d'une certaine manière, une absence de la question esthétique dans l'espace public qui relève d'une certaine tradition liée à une ostracisation de ces arguments dans l'espace public. Alors, c'est une discipline, l'esthétique environnementale, qui consiste justement à revenir avec attention sur l'expérience esthétique que nous faisons quotidiennement. Ça, c'est aussi une chose par rapport à l'art, qui est une expérience plus exceptionnelle ou exceptionnellement, de divers types d'environnements, qu'ils soient naturels ou construits. Alors, c'est environ une discipline qui grandit depuis les années 60-70, s'intéressant à des objets tels que la nature traditionnelle, les grands espaces naturels, le paysage, on peut même trouver les travaux de Catherine Chemara-Ruiz qui s'intéresse à ça, l'espace urbain ou encore des objets du quotidien avec les travaux de Yuriko Saito aux États-Unis. Les stratégies que cette discipline emploie pour qualifier, pour essayer de comprendre un peu quelles sont les valeurs, les valeurs de l'environnement sont extrêmement variées. Il faut savoir qu'entre entre les Américains, les Chinois par exemple, on avait l'occasion d'en discuter parce qu'ils ont fait un gros colloque là-bas sur ces questions-là, il y a bien sûr des cultures très différentes, surtout sur cette compréhension des valeurs du paysage ou de l'esthétique environnementale. Alors, ces stratégies pourront servir de référent dans l'exercice d'analyse des valeurs mises en jeu par les habitants et les acteurs institutionnels. Parce que j'insiste encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport des artistes à l'environnement et les modes d'engagement de ces artistes sur ces questions-là. Mais il s'agit bien aussi de voir que l'esthétique environnementale concerne tous les habitants, concerne tout type d'environnement qui sont créés par les acteurs. Ainsi, on prendra aussi bien en compte les appréciations dites cognitives. Alors ça renvoie à tout un courant de l'esthétique environnementale. Il y a un courant qui est très fort, pour restituer le débat, qui s'attache aux connaissances. C'est-à-dire, finalement, quand on apprécie un environnement, qu'est-ce qui vient de nos connaissances ? Ou alors, qu'est-ce qui vient de la sensibilité ou de la sensation ? Et ces deux courants de l'esthétique environnementale. Les uns disent que pour apprécier, il faut connaître. Les autres disent qu'on apprécie avant de connaître, que la question de la connaissance est seconde. Ça, c'est véritablement un grand clivage. Le second courant auquel je me réfère moi-même, qui est plutôt non cognitif, si j'ose dire, laisse une grande place à la question de l'imagination, au récit ordinaire, à la question du folklore éventuellement, et du coup s'attache moins à la question scientifique. Donc ça m'apparaît important. Par exemple, je vais essayer d'illustrer, j'essaie toujours d'illustrer ces propos parce que comme j'ai fait énormément d'enquêtes sur le terrain, ça permet de donner un peu de chair à un propos qui pourrait être autrement trop théorique. On a travaillé avec des médecins sur la pollution à Strasbourg, avec une population témoin asthmatique et une population non asthmatique. Les uns étant suivis à l'hôpital et les autres non. Ils habitaient les mêmes lieux. On a travaillé à la fois sur la pollution avec des chimistes aussi. Il y avait médecins, chimistes et nous, sur l'air intérieur et l'air extérieur, avec des procédures de suivi des déplacements, de mesures. Bon. Ce qui est intéressant, ça a été une grosse étude, mais ce qui est intéressant par rapport à cette étude, c'est de voir que, y compris les personnes asthmatiques qui pourraient avoir un recours à l'information scientifique, notamment puisqu'elle est disponible sur le net concernant la qualité de l'air, ce qui pourrait leur éviter de sortir peut-être à des jours où ils pourraient souffrir de la qualité de l'air, bien, y compris ces personnes n'ont jamais recours à l'information scientifique. Ça, je l'avais déjà éprouvé sur le rapport à l'animal. Il n'y a pas d'intérêt pour cette information de manière directe, y compris quand on a un problème qui pourrait relever d'une envie d'acquérir ces connaissances. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que quand on demande aux personnes de qualifier la pollution ou la qualité de l'air, tous les termes utilisés renvoient à des questions sensorielles et esthétiques. Tous les termes. Il n'y en a pas un. Donc, le goût, l'air pique, la question de la couleur est absolument centrale, l'air noir, les murs noirs, enfin, toute une série de sensations qui permettent de configurer l'environnement. Alors, ça, c'est important parce que ça m'a conduit à penser que finalement, il y avait tout un champ qui n'était pas travaillé. C'est justement ce champ de l'esthétique ordinaire, si j'ose dire. Finalement, comment intervient cette question esthétique dans les représentations ordinaires? Comment il joue dans la configuration de l'environnement? Par exemple, je dis configuration parce que je pense que si on voit l'herbe sale, eh bien on n'ira pas s'asseoir dessus. Donc ça a un rôle absolument majeur, ça configure des façons de se comporter à l'égard de l'environnement, ça joue de manière tout à fait centrale dans les comportements qu'on va adopter. Alors, il y a aussi lié à toujours dans le champ de cette esthétique environnementale, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits dans le lien entre esthétique, environnement et politique, bien évidemment, des travaux auxquels je me réfère. La tradition américaine étant beaucoup moins politisée que certains courants français par rapport à ça. Après, c'est des traditions de recherche en sciences sociales. Donc vous voyez que depuis une trentaine d'années, cette question de l'esthétique s'est largement ouverte à d'autres objets que la question artistique. L'article qui figure au titre d'origine de ces questions d'esthétique environnementale, c'est l'article de Ronald F. Byrne qui est paru en 1966, qui invitait à compléter aussi la réflexion largement ignorée par la théorie esthétique. Alors, cet article, parce que je suis une académique, donc je vais vous citer le titre, autrement, ça ne le ferait pas, je me sentirais en défaut. C'est « Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty ». Donc, c'est un article qui est paru en philosophie. Il faut savoir que les gens, dans le champ de l'esthétique environnementale, ça a d'abord été des philosophes qui, d'une part, sont partis, comme je vous l'ai dit, de la tradition pragmatiste américaine avec John Dewey, mais de l'autre, plutôt pour les philosophes anglais, sont partis de Kant, Et donc, parce que Kant a fait tout un travail sur l'appréciation de la beauté naturelle, et c'est lui qui, au XVIIIe siècle, va introduire cette question de l'appréciation de la beauté naturelle. Alors, donc l'appréciation sensible de différents types d'environnement est donc désormais rendue possible en commençant par s'interroger sur ce qui constitue un environnement. Finalement, jusqu'où s'étend-il ? Depuis ce qui nous est proche, ce à quoi nos yeux ont accès, c'est pour ça que je disais cette question des yeux est centrale, cette portion d'espace dans lequel nous nous mouvons habituellement, jusqu'à cette compréhension de l'environnement en tant que système-monde, parce que c'est comme ça que cette question est aujourd'hui comprise, actuellement perturbée par des déséquilibres dus aux activités humaines. Que comprend cet environnement qui est traité par l'esthétique environnementale, du rapport au corps à un espace donné, à la langue qu'on y parle, aux liens qu'on y tisse avec différentes personnes, différents groupes. La définition de la sphère environnement par cette branche de l'esthétique dépasse donc d'emblée une compréhension uniquement spatiale des objets qu'elle investit. C'est pour ça que je suis géographe, certes, mais c'est une compréhension plus riche que j'ai de la question environnementale qu'une compréhension purement spatiale. Elle dépasse aussi la question des objets qu'elle investit, comme la biodiversité, le jardinage en milieu urbain ou encore la qualité de l'habitat, pour intégrer une approche complexe. L'esthétique environnementale intègre une approche complexe qui prend en compte la question de la connaissance scientifique, de la manière dont, effectivement ou non, elle participe à la représentation que nous nous faisons de ces milieux, que des liens sociaux ou des usages culturels. Donc cette branche cognitive insiste plus sur la connaissance scientifique. Pour ces gens-là, pour ce courant-là de l'esthétique environnementale, la beauté d'un écosystème nous est révélée lorsque nous en connaissons, grâce à des études, sa fragilité, sa complexité. Pour ces gens-là, on n'aurait jamais regardé la nature si on n'avait pas pris conscience scientifiquement d'abord, puis politiquement, que cette nature était fragile. Tandis que la branche non cognitive complète son approche phénoménologique d'un intérêt pour les strates de l'histoire et la politique des lieux et des objets. Donc vous voyez bien que par rapport à ça, l'esthétique environnementale est une branche d'abord qui est en plein développement et deuxièmement qui d'emblée milite pour une approche complexe de l'environnement et de la représentation environnementale. Alors les Chinois, par exemple, avec lesquels je travaille, sont encore plus radicaux, c'est-à-dire qu'ils parlent d'eco-esthetics, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'ils refusent de parler d'esthétique environnementale en disant c'est encore une fois restituer la coupure entre nous et l'environnement, comme si on appréciait l'environnement, alors que pour eux, finalement, les sensations que nous éprouvons dans la nature font écho à notre propre nature et donc on ne peut pas se différencier ainsi de cette appréciation. En ce qui me concerne, depuis des années, ce qui m'intéresse, c'est de voir plus particulièrement comment, au travers des choix qui sont faits, en matière esthétique, des choix en termes de configuration de notre environnement. Et moi, je travaille plus particulièrement en ville, et c'est vrai que c'est flagrant en ville, hein. Nous configurons des environnements. Et comment émerge un sentiment de collectif à cet égard, finalement, comment on en vient à partager l'esthétique d'un quartier, par exemple d'un éco-quartier. C'est tout à fait visible que j'ai beaucoup travaillé sur les écoquartiers, que par exemple sur les écoquartiers d'origine habitante, l'esthétique participe du sentiment d'être collectivement uni, de participer d'un même ensemble de valeurs. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment ce jeu social prend naissance dans une esthétique et à quel point finalement il relève d'un choix politique de configuration de l'environnement. Alors pourquoi il faut que je veille sur l'heure parce que j'ai quand même montré que je peux être très bavarde. Il est 17h05, donc encore un quart d'heure et puis je préférais que vous laissiez passer avoir des questions que continuer. Mais voilà, pourquoi aujourd'hui, me semble-t-il, alors parce que je vais répondre à une question en fait, c'est-à-dire que souvent on me dit, mais l'esthétique environnementale, au regard des urgences dont le monde est saisi, changement climatique, etc., pourquoi c'est important? Pourquoi tu penses que ça ne relève pas simplement des soucis un peu précieux pour apprécier les sensations que les uns et les autres pourraient avoir? Alors, je vais juste aller dire deux arguments. Le premier, c'est que Rio plus 20, auquel nous étions par ailleurs, a montré clairement les limites de l'exercice développement durable. Il me semble qu'on est plutôt dans une impasse en termes politiques. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il s'agit bien d'essayer de démocratiser la question environnementale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment elle fonctionne pour tout à chacun. Et j'ai toujours eu pour souci de voir en quoi il existe une esthétique environnementale ordinaire, comment les gens se configurent des environnements, comment ça participe de la vie quotidienne, comment se crée-t-on un cadre de vie, comment prend-il sens à nos yeux de telle façon à avoir une certaine légitimité. Et je trouve ça d'autant plus important que, par exemple, j'ai travaillé sur des quartiers en Allemagne où les gens s'étaient très mobilisés pour restaurer tout un tissu de jardin, pour créer puis restaurer un tissu de jardin. C'était un quartier très populaire et je me suis rendu compte à quel point l'esthétique de ces lieux était pour eux une question de dignité. Pareil en Russie, j'ai beaucoup travaillé dans des grands ensembles. Et la question pour les bars dans lesquels j'ai travaillé, enfin, je n'ai pas amené les photos parce qu'il n'y a pas assez de temps pour l'intervention, mais c'est des énormes bars. Et le fait de revaloriser les pieds d'immeubles et de traiter de leur environnement pour les gens renvoie à l'idée de dignité. Ils ont le droit, enfin, le mot, c'est on a le droit à autant de beauté que les gens en ont dans le centre urbain. Donc vraiment, la question de la beauté est un terme souvent utilisé pour justifier la question d'une certaine justice du point de vue de l'accès à des environnements de qualité. Donc ça, c'est le deuxième argument. Enfin, le troisième, je crois que là, les environnementalistes en sont convaincus, c'est que c'est une manière aussi, cette esthétique environnementale, de réintégrer les questions concrètes, sensibles de notre environnement dans nos préoccupations ordinaires. Nous ne vivons pas dans des lieux qui n'ont pas de matérialité, de visibilité, de sensibilité, de sensorialité, j'ai envie de dire. Tout ça participe. C'est un monde de formes, de couleurs, de sonorités, d'odeurs qui sont très importants du point de vue à la fois pas simplement des qualités de vie, mais aussi des configurations politiques dans lesquelles nous œuvrons. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais juste voilà, finir sur ces questions-là en disant qu'il y a donc une triple visée, je dirais, à l'esthétique environnementale, celle que je développe en tout cas, parce qu'encore une fois, là, je vous dis au congrès qui va avoir lieu en Pologne, en fait, comme il y a un Chinois, enfin, il y a des représentants, chacun va y aller un peu de sa tradition culturelle, de revendiquer ses auteurs, ce qui est assez difficile parce que, par exemple, là, les ouvrages que j'ai faits sont traduits en chinois et je suis, enfin, il y a quand même des mondes assez différents, disons, on va dire ça, qui rendent pas toujours facile le partage par rapport à une culture, etc., etc. Surtout que quand on parle d'esthétique, il y a beaucoup de questions de culture derrière, donc ça rend d'autant plus difficile le partage. Quoi qu'il en soit, ce que je développe en France, ça vise à revenir, je m'inscris d'emblée dans les propos de Rancière sur le partage du sensible, parce qu'il me semble important de voir la définition de ce qui rentre dans le domaine de l'environnement, les partages qui le scindent en différentes catégories, ce qui est propre et sale, ce qui est sauvage et naturel, ce qui est à sauver et ce qui ne l'est pas, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, etc. Il y a toute une série de catégories, on le voit par les écoquartiers, hein, qui remodèlent notre environnement avec de nouvelles catégories. Le sauvage devient apprécié, le naturel également. On est en train de reconfigurer toutes ces catégories. Donc, il me semble important de rendre visible ce partage du sensible, comme dirait Rancière, en ce qui concerne l'environnement. Pour ce faire, il faut voir de quelle manière, c'est qui a les clés de ce partage du sensible en ce qui concerne l'environnement, qui configure l'environnement, au nom de quelle valeur, quelle éthique, quel pouvoir aussi sur cet environnement, pourquoi la participation à cet égard est toujours aussi difficile en France en ce qui concerne les choix faits à l'égard de l'environnement dans les opérations d'aménagement. Donc c'est des questions de contrôle. Donc voilà. Et bien sûr, la question du ticket d'entrée dans ces participations, dans ces cénacles de la participation, souvent ça relève de la connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut avoir un propos rationnel par rapport à ce qui est défendu dans le domaine de l'environnement. Bon, et ça soulève quelques questions par rapport, du coup, aux gens qui sont habilités à participer. Donc, deuxième visée qui fait trait à ça, c'est grandir le débat de l'aménagement, renouer avec une question d'aménagement participatif, de s'interroger sur les conditions même de la participation, de voir en quoi elle renvoie en termes démocratiques. Donc il s'agit bien de valoriser l'environnement d'autres termes que ceux associés à l'agir scientifique. Je vois par exemple, parce que j'ai dirigé un programme de l'Agence nationale de la recherche sur les trames vertes, qui sont, maintenant tout le monde veut faire des trames vertes, et c'est vrai que la question de l'expertise est devenue centrale, et notamment de l'expertise écologique. On voudrait des assurances, on voudrait mettre en place des trames vertes avec des calculs faits par les écologues qui donneraient le bon linéaire de trame verte pour avoir les bonnes espèces aux bons endroits, etc., et que tout ça soit bien sans problème et bien calculé. D'abord, c'est un monde utopique, hein, faut savoir que ça n'existe pas. Il n'existe pas de bonne largeur de trame verte qui répondent à tous les soucis qu'on pourrait avoir. C'est vraiment totalement irrationnel pour le coup, même si on demande aux scientifiques de le faire. Et d'autre part, ce qui est apprécié dans les trames vertes, et nous avons pu l'éprouver, ce n'est pas justement la science, ce n'est pas la biodiversité, c'est un univers enrichi de dimensions sensorielles, inédites dans l'environnement urbain que les gens ont à vivre encore aujourd'hui. Donc, troisième but, c'est de voir, de comprendre finalement de quelle manière cette expérience esthétique qui pourrait être valorisée chez les personnes en tant que telle, en tant qu'elle propose finalement une façon de revoir le cadre de vie, permet d'être une source de, à la fois de reconfiguration de l'environnement, mais aussi de valorisation des personnes en tant qu'acteurs politiques. Donc, pour conclure, vous voyez bien que l'esthétique environnementale, ce n'est pas juste mettre au jour ou mettre en évidence des perceptions, des affects, des usages qui sont liés au lieu et au mode d'être. Souvent, on me dit, tu vas étudier les perceptions, encore une fois, renvoyant à des choses très passives, d'une certaine manière. Je crois que l'esthétique environnementale se complète d'un autre pan qui est lié à l'action. Alors probablement que cela s'explique par un lien très fort que l'esthétique environnementale entretient avec la famille de la philosophie appliquée, notamment pour les Nordiques et les Finlandais. Il faut savoir que le International Applied Aesthetics Congress qui a lieu chaque année, tous les deux ans, en Finlande, qui est souvent consacré à l'esthétique environnementale, est vraiment de la philosophie appliquée, c'est-à-dire finalement de l'aide à choisir et à essayer de comprendre ce qui se passe quand on crée certains environnements plutôt que d'autres, au nom de quoi, de quelles valeurs, etc. Alors, Iiro Seppänmaa, qui est un Finlandais, qui a largement contribué à développer la réflexion esthétique sur la nature et le paysage, explique ainsi ce qui distingue l'esthétique appliquée. La recherche de base en esthétique, dit-il, se concentre sur la formulation de théories systématiques et sur l'histoire de la discipline, tandis que l'esthétique appliquée cherche à dégager des principes d'action face à des situations nécessitant de faire des choix. C'est encore une fois dans le champ de la philosophie le refus d'une philosophie surplombante qui n'est pas investie dans les activités ordinaires. Je pense que si on considère qu'il est désormais urgent de réagir face aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aussi bien au quotidien qu'à l'échelle planétaire, alors l'esthétique environnementale se met effectivement en position de pointer des orientations possibles et de dénoncer des choix qui seraient faits sans se référer à cette dimension de la sensibilité humaine. Voilà, merci.